Voilà, c'est le séminaire de Job, la seconde séance, au 26 septembre. Et nous commençons par un exposé de Bénédicte Nollet qui résume ce que nous avons fait la fois passée. À toi, Bénédicte.
Merci. Et donc, je vais commencer par faire la jonction entre les chapitres 1 et 3, à 3 que nous avons lus la fois passée. Et ici, nous allons reprendre l'étude au chapitre 16. Donc, il est bon de lire des versets choisis pour prendre conscience de ce premier dialogue, ce premier cycle de dialogue entre les soi-disant amis de Job et Job qui est dans l'épreuve extrême. Donc je lis des versets. « Souviens-toi, dit Eliphaz, quel est l'innocent qui a péri? Je l'ai bien vu, ceux qui labourent le malheur et sèment la souffrance les moissonnent. Sous l'haleine de Dieu, ils périssent. Heureux l'homme que Dieu corrige. Ainsi, ne méprise pas la leçon de Shaddai. » Nous nous souvenons que dans les premiers chapitres, les amis arrivent à la fin du chapitre 2 et restent en silence pendant 7 jours. Ils se tiennent à côté de Job dans la souffrance extrême. Il est dans un tel état qu'ils ne le reconnaissent pas, ils restent en silence. Ils auraient mieux fait peut-être de le rester, ça fera partie de nos questions. Au chapitre 6, « Serait-ce donc le néant, ce secours que j'attends? L'homme effondré a droit à la pitié de son prochain, sinon il abandonnera la crainte du puissant. Mes frères ont trahi comme un torrent. En quoi ai-je failli? Montrez-le-moi. Revenez, ma justice est en cause. » Puis il s'adresse à Dieu en le tutoyant, ce que ne font jamais ses amis. Ils sont sûrs de leur doctrine, et face à Job dans la souffrance, ils s'enracinent dans leur doctrine et lui assènent de quoi l'accuser. Et donc ici, Job s'adresse à Dieu. « Tu me terrorises par des songes et par des visions, tu m'épouvantes. La pendaison me séduit. Ai-je péché? Pourquoi m'avoir pris pour cible? Déjà, me voici gisant en poussière. Et puis là, une note d'espoir, tu me chercheras à tâtons. » Et donc c'est très étonnant ce contraste continuel entre Job sous le feu de la critique de ses ennemis, percevant Dieu comme un guerrier qui le prend comme cible, et à la fois Job ne capitule ni devant ses amis, il aurait pu se taire, non, il continue à défendre sa justice, son intégrité, que Dieu lui-même avait reconnu dans le début. D'abord le narrateur et puis Dieu lui-même. Et face à Dieu, il va tutoyer Dieu, ce qui dit bien une espérance. Il continue à parler à Dieu. « Tu me chercheras à tâtons. » Puis Bildad, un autre ami, reprend du haut de sa certitude, si éloigné de sa compassion initiale. Donc au chapitre 8, « Si toi tu recherches Dieu, si tu es honnête et droit, alors il veillera sur toi et te restaurera dans ta justice. » Donc il veut à la fois redonner espoir à Job, mais en continuant à lui dire « Il faut d'abord que tu fasses un passage vers la droiture. » Et Job poursuit le cri du fond de son tourment. Il parle de Dieu, il fait périr de même l'homme intègre et le méchant. C'est tout son questionnement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il le verbalise. Cette verbalisation ne correspond pas à un désespoir. Il parle de Dieu, il se rit de la détresse des innocents. Et puis, il parle en tu. « Rappelle-toi, tu m'as façonné comme l'argile. » Puis Sophar, « Et tu as osé dire, ma doctrine est irréprochable et je suis pure à tes yeux. » S'il y a des méfaits dans tes mains, jette-les au loin. Alors, tu lèveras un front sans tâche. Face aux affirmations de ses amis, aussi sûrs de leur doctrine qu'éloignés de la compassion, Job ne se désarçonne pas. Moi aussi, j'ai raison, tout comme vous. Je ne suis pas plus déchu que vous. Moi qui m'époumonne vers ce Dieu qui jadis répondait. Et à leur théorie, il oppose son expérience. Elles sont en paix les tentes des brigands. Vous qui dites que Dieu rétribue par l'opulence et par la paix, celui qui agit avec justice. Eh bien, Job constate, elles sont en paix les tentes des brigands, ils sont tranquilles ceux qui provoquent Dieu, et qu'aucun de ses interlocuteurs ne prétend. Oui, et ça c'est moi qui reprends. Qu'aucun de ses interlocuteurs ne prétende connaître Dieu mieux que lui. Car même les bestiaux et la création n'ignorent pas que c'est la main du Seigneur qui fit cet état du monde, où même le méchant est en paix. Si ses amis sont forts de la tradition des anciens, Job est fort de son expérience. Oui, tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu et compris. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne suis pas plus déchu que vous. Mais moi, c'est au puissant que je vais parler. C'est contre Dieu que je vais me défendre. Quant à vous, plâtriers de mensonges, qui vous réduira une bonne fois au silence? Cela vous servirait de sagesse. Est-ce au nom de Dieu que vous parlez en fourbe, en sa faveur que vous débitez des tromperies? Et donc, on continue, Job se tourne à nouveau vers l'horizon de son Dieu. « Voici, même quand il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. » C'est au verset 15, on est au chapitre 13.
C'est pour l'enregistrement, je dis
ça. Oui, merci. Et au verset 20, « Épargne-moi seulement deux choses. » Et je cesserai de me cacher devant toi. Le lecteur a la rétribution en arrière-fond de sa pensée. Et voilà ce que demande Job. Éloigne ta griffe de dessus de moi. Ne m'épouvante plus par ta terreur. Puis appelle, et moi, je répliquerai. Ou bien, si je parle, réponds-moi. Voilà ce que les deux choses que demande à Job. Mais rien ne désarçonne cet ami prétendant bien parler de Dieu sans se disposer comme Job pour parler à Dieu. Donc Eliphaz au chapitre 15 verset 2, un sage se défend-il avec des mots inutiles? Et je continue, tu fais plus, tu supprimes la piété, tu discrédites les pieux, entretiens devant Dieu. Ta propre bouche te condamne et non pas moi. Tes lèvres même témoignent contre toi. Donc on voit un cœur endurci qui continue à accuser et qui défend sa propre théorie de la rétribution. Alors, je voudrais reprendre les questions, il faut que je les trouve, que nous avions posées la fois passée. Elles sont pas ici. Pardon. Tu peux couper l'enregistrement un moment ou tu le feras après. Il faut que je les trouve dans mes papiers. Voilà. Donc, je vais juste reprendre maintenant les questions que le groupe s'était posées et sûrement que j'en oublie et donc vous pourrez compléter celles que j'ai retenues. D'abord, Job est-il un personnage ayant existé? Alors, souvenons-nous. Le récit est dans les Sapientiaux, des écrits de sagesse, et nous avons relevé que le lieu, Utz, est un lieu très difficile à localiser, impossible à localiser, et que ce lieu, ce mot de Utz signifie conseil. Le temps, c'est il y avait jadis, indéterminé. Et donc, Job est-il un personnage ayant réellement existé? C'est une question que se pose la recherche historique. Alors, cette recherche historique, elle a bien sûr un immense intérêt, c'est de nous mettre en alliance avec le peuple qui a écrit et de nous mettre en lien avec la mémoire de ce peuple, avec sa propre histoire, qui vient interroger nos propres histoires et se mettre en écho souvent à nos propres histoires. Et j'ai repris ici, cependant, une théorie qui dit en fait, dans la recherche historique, on va s'interroger, Job a-t-il existé? Et puis aussi, quelle est l'histoire de la rédaction? Eh bien, voilà que certains disent, il n'y a pas seulement eu un monsieur Job, il y en a eu deux. Il y a eu Job le patient et Job le colérique. Et voilà que le récit a mis les deux ensemble, mais revenons à la source, il y a deux monsieur Job. Et face à cela, un juif, Moshe Greenberg, s'insurge. Voici ici ce qu'il dit. Des exégètes croient pouvoir reconstituer le texte original en le réécrivant, en le réorganisant. Leurs hypothèses reposent sur des attentes de simplicité, de cohérence, de linéarité, qui sont réfutées par la teneur même du livre. Nous sommes ici face à la question de la souffrance extrême d'un humain, et nous le voyons dans un lieu indéterminé, dans un temps indéterminé, donc une question posée comme universelle. Et donc, ce Moshe Greenberg, il est extrêmement agacé face à certaines recherches qui vont prétendre qu'une recherche de cohérence du récit et de linéarité, eh bien, prend le dessus sur le texte tel qu'il est. Et donc, la complexité littéraire du livre est assortie et appropriée à la nature des problèmes dont il traite. Et donc, lorsque l'approche scientifique, qui a son intérêt, je le redis, mais quand elle s'en tient à dissoudre la cohérence d'un récit, elle risque bien d'en torpiller la force. Et là, c'est un appel à nos expériences. Nos expériences de détresse sont-elles si linéaires que certains le prétendraient ? Et ne connaissons-nous pas nous-mêmes cette alternance entre ce questionnement sur Dieu, est-ce Dieu qui crée cette situation dans laquelle je suis, et cet acte de foi qui vient réfuter les accusations des adversaires. Et donc, la question qui se pose, Job, dans sa souffrance, il va jusqu'à la folie. Et la question que pose le récit, cette folie atteindra-t-elle jusqu'au noyau que son Dieu tient en main, qui est son âme? Le début du récit pose cette question. Deuxième question, le bonheur de Job. Nous avons interrogé la situation initiale, d'opulence. Est-elle bonheur parfait, duquel Job serait dessaisi sans cause venant de lui? Alors, qui parmi nous? Oui, c'est Geneviève.
Moi, je suis Bernadette.
Bernadette, oui, c'est ça, pardon, Bernadette. A nommé Marie Balmary, la psychanalyste, et Marie Balmary, elle interroge d'abord le fait que les enfants de Job ne sont pas nommés au début. Et donc, elle interroge cette paternité qui fait que dans le récit, les enfants ne sont nommés qu'en fonction de leur père. Et un père qui va offrir chaque semaine des sacrifices pour d'éventuelles fautes que les enfants auraient commis. Alors, Job est-il un père juste laissant ses enfants vivre, festoyer chaque semaine, respectueux de leur liberté et tout à la fois réaliste en se disant peut-être qu'ils ont péché? Quelle faute aurait-il pu commettre? Ils festoient chaque semaine ensemble. Et Anne avait relevé étrange cercle familial si fermé avec une question, jusqu'à l'incestueux, jusqu'à l'inceste? Mais appartient-il à un père de viser à couvrir les éventuelles fautes de ses enfants? La réponse de la psychanalyste est qu'il aurait mieux fait d'énoncer pour mieux la loi et de les laisser vivre, d'une liberté qui est par essence imperfection. Elle compare Job à Abraham. Abraham qui, quand il monte sur la montagne avec son fils pour obéir à Dieu, pour offrir son fils en sacrifice, a-t-il dans son esprit, le récit vient en répétition dire « Va Yelchush Nehem Yardav » ils montaient tous les deux comme un seul. Et voilà qu'après le sacrifice, plutôt la ligature d'Isaac, il n'y a pas sacrifice, eh bien, Abraham, délivré par l'ange de l'acte qu'il croyait devoir commettre, va redescendre la montagne de son côté, sous-entendu, laissant son fils aller son chemin. Et donc, vient se poser une question. Qu'en sera-t-il de l'épreuve de Job? Pourra-t-on la comparer au sacrifice d'Abraham? Quel impact cette épreuve aura-t-elle dans la relation de Job à ses enfants? Seront-ils un jour nommés par leur nom? Alors, troisième question, quel est ce Satan mis en scène, concept ou entité? Le Satan pourrait évoquer une fonction, celle de l'adversité, ce que ce mot veut dire. Mais une fonction dialogue-t-elle avec Dieu? Alors, la tradition juive vient demander, va s'interroger, un ange déchu, quelle est sa posture? Il ne croit pas en la droiture de Job, avons-nous relevé. Il le soupçonne d'être intéressé en sa relation à Dieu, et sa visée est de prouver qu'il a raison. Face à Satan, Dieu croit en Job. Il affirme et réaffirme sa confiance. Qu'en est-il de la puissance de ce Satan ? Lui qui, que le récit évoque comme passant ses jours à ne rien construire. « D'où viens-tu ? » lui demande le Seigneur. « De parcourir la terre et de m'y promener, » répond Satan. Le Satan. Le récit le représente comme devant demander la permission à Dieu de mettre Job à mal. Drame d'un Dieu qui gère sa puissance en la partageant. Mais face à la puissance du Satan, quel peut être le pouvoir de Job ? Alors que le Satan s'occupe si bien à détruire la vie de Job, Dieu remarque que Job a maintenu son intégrité. Et dès le chapitre 3, alors que Job exprime sa détresse en maudissant le jour de sa naissance, nous avons remarqué que le Satan a disparu. Mais le lecteur s'interroge, qu'en sera-t-il dans la suite du récit ? La question de Satan. L'humain honore-t-il Dieu juste dans le but d'obtenir de lui ce qu'il veut ? Ou est-il capable de rendre à son Dieu la réciproque de la gratuité qui le caractérise ? S'interroge le lecteur. Est-ce pour rien que l'homme craint Dieu ? Lorsque Job est atteint en sa chair, il dit à sa femme : « Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur ? » Et le rédacteur conclut : « En tout cela, Job ne pécha point en parole. » Alors, question. Job ne pécha pas en parole, mais qu'en est-il de son cœur ? Les commentaires rabbiniques s'interrogent. Voilà la tension du récit. Qu'en sera-t-il de la pureté de la foi de Job éprouvée dans la suite de l'histoire ? Quatrième question. La dernière est très rapide, mais c'est normal. Quatrième question, la relation entre Job et son Dieu. Donc, le père Jean-Marie nous avait dit, mais n'est-ce pas la question du récit ? Elle est sûrement là, mais le lecteur ne peut-il s'interroger dans ce récit ? Qu'en est-il de la relation de Job à son Dieu ? Qu'en est-il de la relation de Job à l'homme qui souffre ? Qu'en est-il de la relation de Job à lui-même ? Des questions que le lecteur se pose. En ce qui le concerne. Alors, relation entre Job et son Dieu. Qu'en est-il donc de la toute-puissance de ce Dieu et de sa bonté lorsqu'il permet à Satan de faire souffrir l'innocent ? Quelle finalité des souffrances du juste ? En vue de quoi Dieu permet-il au Satan d'agir ? Nous avons lu qu'après que Job est dépouillé de tout avoir et de ses enfants, Dieu continue à le voir comme gardant les attributs touchant à son être. Un homme intègre, un homme droit, un homme craignant Dieu, un homme se détournant du mal. Et je dois dire que l'intégrité, tam en hébreu, est un mot qui revient dans le Cantique des Cantiques. C'est un attribut de la fiancée du Cantique. Donc, le lecteur peut en déduire l'intégrité de l'humain prépare l'humain à l'alliance avec Dieu. Et on voit que Job est resté intègre là-dedans, est resté là-dedans. Donc, Job est donc bien un juste, un homme particulièrement vertueux. Mais la providence semble être niée à ce juste soumis à l'épreuve. N'y a-t-il pas ici un scandale théologique ? Le récit se tiendra-t-il à cette image donnée de Dieu par Job ? Pourquoi ce don de la vie, en 3:23, à l'homme que Dieu entoure d'une haie ? Qu'en sera-t-il dans la suite du récit de la promesse, de l'accomplissement de la bénédiction de Dieu pour ce Job intègre et droit ? Pourrait-on envisager une adéquation entre la vertu et le bonheur ? Qu'en est-il ? Et qu'en sera-t-il de la béatitude de Job, le juste ? Heureux ceux qui pleurent ? Ils seront consolés. Job, présenté comme juste souffrant, autre question, pourra-t-il être mis en parallèle avec Jésus dans sa passion ? Nous avons déjà noté qu'on ne peut dire que Job souffre pour le salut de ses amis. Mais à la fin, quand sera-t-il? Est-ce que Job portera quelque chose du salut pour le salut de ses amis? Question. Et la dernière vraie question ici, la relation entre les trois amis qui viennent du nord, de l'est et du sud, comme de tout l'univers, vers Job souffrant. De loin, fixant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas, et s'asseyant à terre près de lui, ils restèrent ainsi en silence pendant 7 jours et 7 nuits. Au chapitre 2. Les amis sont ici alliés pour consoler celui qui souffre. Et donc, quand sera-t-il, je n'ai pas la page suivante, peut-être là, non, quand sera-t-il dans la suite du récit de cette relation entre les amis, entre guillemets, et Job. Donc, nous allons commencer ici la lecture du chapitre 16, avec en arrière-fond ces questions que la première séance. Y a-t-il d'autres questions que vous aimeriez qu'il soit soulevées, que je n'aurais pas notées ici? On prendra ça dans le départ. Okay. Et donc, nous allons prendre la lecture du chapitre 16.